un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
On aurait pu attendre Noël pour vous raconter cette histoire. Mais la tendresse, la dignité, la générosité, n'ayons pas peur des mots, et le combat pour tout ça, en vrai, ça devrait être tous les jours. L'autre soir, alors qu'elle présentait avec son fils un film qui s'appelle « Les années Super 8 » et qui montre une dizaine d'années de sa vie de famille, avec son mari, ses enfants et sa mère, j'entendais Annie Ernaux dire qu'elle écrivait pour venger sa race. Elle dit ça souvent, elle ne sait pas si elle a réussi, mais c'est ce qu'elle a essayé de faire. Donner une voix, à travers cette écriture faussement plate, à la race des gens modestes, ce milieu d'ouvriers et de petits commerçants dont elle vient. Venger cette mère, en tablier, comme on la voit toujours dans le film, et qui a deux sucres dans la poche, souvenir des privations de la guerre, peut-être. La fratrie Malo, c'est un peu une histoire comme ça. En plus mélodramatique, qui se passe en Vendée, celle d'enfants qui refusent de descendre la pente de l'humiliation et de la tristesse, encaissent et résistent. Romane, Morgane, Yona, 26, 21 et 14 ans, c'est Émilie Chaudet qui raconte leur histoire tout de suite dans Les Pieds sur Terre.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Donc je m'appelle Romane Malo, j'ai 26 ans.
Moi je m'appelle Morgane Malo, j'ai 21 ans. On est né en Belgique, on a vécu en Vendée avec nos parents. Et au début quand on arrive en Vendée, on est deux, donc Romane mon grand frère, moi ensuite, et puis la naissance de Yona en 2008. Moi j'ai 7 ans et demi et Romane il a à peu près 14 ans.
On est arrivé en France initialement pour un projet professionnel de la part de mes parents. C'était de reprendre un élevage canin, et ça n'a pas fonctionné pour divers éléments. Le projet initial n'a pas pu aboutir, et si vous voulez, le peu de ressources qu'on avait de côté, ça a fondu comme neige au soleil. Au bout de 6 mois à vivre sans rentrée d'argent, forcément, il faut trouver des moyens pour que la famille puisse assurer ses besoins élémentaires. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, mon père a une cinquantaine d'années, et donc difficile de trouver un emploi. Et à ce moment-là, mon père, je pense que le départ en France a été une descente aux enfers, je dirais, économique, mais aussi en termes de, je dirais, sur son estime personnelle. C'est-à-dire que pour lui, un travail manuel, c'était humiliant, c'était finalement accepter sa condition et de se rendre compte qu'on était dans une situation particulièrement désastreuse. Là, à ce moment-là, on est 4, puis après, on sera 5. Avec un SMIC, on ne vit pas bien. Ma maman, de son côté, a été beaucoup plus courageuse. Et donc, elle a accepté toutes les missions qui s'offraient à elle. Je suis même pas persuadé qu'elle a lu une seule fois la description d'un poste. Ce qu'elle regardait, c'était le salaire à la fin et si elle allait pouvoir en cumuler plusieurs. Elle a tout fait, quoi. Mais beaucoup de... On était dans une région assez rurale, c'est la Vendée. Donc, il y a du travail agricole, du travail dans les champs, du travail dans les élevages. Notre maman a fait aussi beaucoup de ménage.
Oui, du coup, elle était femme de ménage dans mon lycée. Et en fait, j'étais fière d'elle. Donc, au début, oui, en effet, elle m'a dit « Non, mais Morgane, ne viens pas me voir, tes copines. » Et en fait, j'en avais rien à faire. Moi, je voyais ma maman, hop, j'y allais, je lui faisais un bisou. Et en fait, tout le monde du lycée et surtout mes copines se sont pas dit « Oh non, la maman de Morgane est femme de ménage. » Moi, j'ai toujours dit « En fait, si ma mère n'était pas femme de ménage, vos toilettes ne seraient pas propres. » Donc elles ont pris ça un peu comme un jeu. Elles ont, voilà, tous les jours allé aussi faire un bisou à ma maman. Et puis tout le monde savait que c'était ma mère. Déjà physiquement, il n'y avait pas de tromperie. Et ça n'a pas du tout provoqué de honte dans mon lycée. Pourtant j'étais dans un lycée privé quand même, parce que j'avais eu la bourse au mérite. Donc je m'étais dit que j'allais aller dans un lycée privé qui était super bien réputé. Et il n'y a jamais eu de honte. Tout le monde, voilà, s'est dit « Ah mais en fait, Morgane a une maman courageuse. »
Thank you.
Quand j'étais petite, notre maman était une maman super rassurante, donc j'avais pas peur. Maman, elle mettait ça un peu comme un jeu, je veux dire, par exemple, de s'habiller à Emmaüs ou des choses comme ça. C'était un peu, on allait à une brocante, c'était chouette. Et c'était un peu dissimulé, aller au Resto du Cœur, je me rappelle, nous, on trouvait ça drôle, on y allait, on choisissait nos petits produits, on faisait un peu une épicerie, enfin, c'était chouette. Et je pense que j'ai commencé à m'en rendre compte fin du collège, quand j'ai eu des copines qui s'habillaient différemment, qui racontaient leur week-end, qui partaient au ski pendant l'hiver, qui partaient en vacances. Et là, je me suis dit, ah, ok, il y a un problème. Et ça s'est accentué vers le lycée, quand par exemple, moi, je voulais passer le code, où je voulais commencer la conduite, mais c'était pas possible parce que c'était trop cher. Je voyais toutes mes copines vers 15-16 ans, j'ai passé mon code, là je vais commencer la conduite accompagnée. Fêter les anniversaires, elles faisaient souvent des petites fêtes dans des salles privées ou même chez elles. Et là je me suis dit, bon, moi j'ai jamais fait ça, je pense qu'il y a un problème.
Quand j'avais besoin d'aller à un anniversaire, par exemple, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, on offre un cadeau, c'est une évidence. Sauf que moi, je ne pouvais pas demander à ma maman d'offrir un cadeau. Et donc, à ce moment-là, moi, je me suis mis tout simplement, et Morgane a réutilisé la même technique, à offrir mes propres cadeaux. C'est-à-dire, quand moi, je recevais quelque chose, je ne me demandais pas comment j'allais pouvoir m'en servir, mais plutôt comment j'allais m'arranger pour pouvoir m'en servir et le garder, je dirais, suffisamment intact pour pouvoir l'offrir à nouveau. Je sais que moi, il m'est arrivé de nombreuses fois de mentir à ma maman sur la question des voyages scolaires, dire que j'avais pas envie de les faire, ou peu importe, mais n'importe quel prétexte pour la déculpabiliser. C'est-à-dire que c'était finalement, plutôt que de dire à ma mère « nous n'avons pas les moyens de nous offrir ça », c'était plutôt « de toute façon, cet événement, cet objet, je n'en veux pas ». Et ça, c'est quelque chose qui a animé, je dirais, toute mon enfance et toute mon adolescence. Et on a eu pendant longtemps d'ailleurs un ordinateur portable, c'était l'ordinateur de la famille qui était au milieu du salon. Et le mot de passe est enregistré, donc je me suis tout naturellement rendu sur le site internet de la banque. Et je me suis demandé qu'est-ce que je vais trouver dessus. Et là, j'arrive sur le compte en banque et je découvre ce que c'est qu'un découvert, je découvre des chiffres qui sont pas verts mais qui sont rouges. Je découvre surtout que mes parents n'ont pas d'argent de côté. Et là, d'un coup, j'ai pris 10 ans. Je devais avoir entre 10 et 12 ans. À ce moment-là, j'ai pris 10 ans et je me suis rendu compte que tout était une question d'argent. Donc j'ai commencé avec des choses très simples. Nettoyer la voiture du voisin, tondre la pelouse. Et en parallèle de ça, j'étais assez bon à l'école. Donc je me mets tout simplement à, par exemple, dire à un ami que je peux faire son devoir à sa place pour 5 euros. Et il me dit, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Je lui dis, mais non, sérieusement. Et puis, ça marche. C'est pas des grosses rentrées d'argent, mais ça devient une obsession. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour moi, j'ai deux obsessions. C'est réussir à l'école, parce que ma mère me dit que le seul ascenseur social qui existe encore, c'est l'école. Et m'arranger pour participer aux revenus, je dirais, de la famille. Et... à ce moment-là, j'ai 10-12 ans. Évidemment, je ne peux pas ramener beaucoup plus. Mais en tout cas, ça prend une place très importante dans mon esprit à ce moment-là.
Mon frère me rassurait beaucoup. Il cachait pas mal de choses, la précarité dans laquelle on vivait, la situation familiale qui était un peu difficile. Et j'ai appris il n'y a pas si longtemps, moi j'étais persuadée que ma maman avait payé mes cadeaux de Noël, pas du tout, c'était mon frère. Et c'était mes premières baskets Nike, et ça je l'ai appris il y a 6 mois. Roman, pour me payer mes cadeaux, il travaillait beaucoup à côté de ses études. Tout ce qui était dans la volaille, les canards, pour les envoyer à l'abattoir. En fait, on les met dans des caisses et voilà, c'était un job qui était vraiment dur. Je me rappelle qu'il rentrait la nuit et que les gens qui ont travaillé dans l'agricole le savent. Il y a une odeur d'amiante qui est hyper forte. Et il faisait de l'agricole, il était serveur dans un restaurant, enfin, il faisait pas mal de choses. Et les seuls sous qu'il avait, en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pour aider ma mère ou pour me faire plaisir. Puis Yona par la suite. Au moment où Roman commence à travailler, bon, je suis pas totalement aveuglée, je commence à me rendre compte que oui, il y a certaines choses qui vont pas. Et donc j'ai commencé moi aussi à travailler assez jeune, faire les maïs, j'ai commencé à 14 ans. Ensuite j'ai été serveuse, donc ça c'était pareil, 15 ans. Et la plonge, c'était durant mon lycée, donc 16-17. Et j'ai fait pas mal de gardes d'enfants. Alors je devais travailler quelques heures par week-end, je devais me faire, je sais pas, 150-200 euros par mois. Et puis après, quand j'ai réussi à gagner un petit peu plus, j'ai payé pas mal de choses, des factures d'électricité en retard, pas mal de cadeaux à Yona aussi, et puis à notre maman, des choses assez simples, mais des bouquets de fleurs, enfin, des choses bêtes, mais qui lui faisaient plaisir.
Mon père est tombé malade à partir de mes 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans. Un jour, comme ça, par hasard, j'entends mon père faire une crise d'épilepsie dans les chambres.
Donc on est en février 2012, il part à l'hôpital.
Et à ce moment-là, le diagnostic tombe, mon père a un cancer des poumons, métastasé sur quasiment l'intégralité de son corps, donc ses heures sont comptées.
Et il ne rentrera jamais puisqu'il est décédé en juillet 2012.
3 jours avant l'anniversaire de mes 16 ans. Et à ce moment-là, pour moi, j'ai ma casquette d'écolier, de collégien et de lycéen, et j'avais ma casquette de second père de famille. En fait, j'avais un emploi du temps qui, quand j'y repense, c'était complètement fou quoi. Pour un enfant, c'était j'avais mon école, le soir j'avais un petit boulot par-ci par-là. Enfin, je cumule tout ce que je peux cumuler parce que j'ai un permis de conduire à financer, j'ai ma mère qui croule sous les dettes parce que mon père nous a laissé un seul héritage, c'est les dettes. Et moi, j'essaie de ramener de l'argent. Voilà, je ramène, disons, entre 200 et 400 euros par mois. Tout disparaît. Je supplée les courses de rentrée scolaire. Je supplée le panier de courses qui manque à la fin du mois. L'activité sportive de mes sœurs.
Après, moi, je rentre au lycée. Donc, je fais un bac scientifique. Je me fais pas mal de copines. Je suis une adolescente plutôt normale qui plaît aux garçons, donc je me réfugie un peu là-dedans. Voilà, j'ai mes premiers petits copains. J'essaye d'oublier un peu la réalité en essayant de viser un peu plus haut. J'avais des copines qui étaient assez riches, j'avais des copains qui étaient assez riches, et je pense que c'était un peu ma manière de m'évader. Et après, voilà, je passais pas mal de temps avec Yona, parce que Roman était déjà parti un an de faire ses études.
Et donc, en février 2021, ma maman m'appelle en panique de son travail. Et donc, elle doit aller à l'hôpital parce qu'elle a fait des palpitations cardiaques, enfin, des symptômes qui font un peu penser à un arrêt cardiaque ou quelque chose d'assez sérieux. Donc, elle est obligée d'aller à l'hôpital. Finalement, c'est rien, en février, aucun problème. Mais à ce moment-là, j'ai un déclic. Je me rends compte que ma maman peut mourir. Et donc, à ce moment-là, avec Morgane, le soir même, on a un appel qui dure 3 heures, où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait si un jour notre maman vient à mourir? Allez, dans 5 ans, dans 10 ans, on imagine un petit peu des situations, un accident de voiture, enfin, on imagine toutes les situations de la vie, puis on met en place tous nos plans. Et malheureusement, ce contexte va arriver beaucoup plus vite que prévu. Au mois de juin, notre maman est très malade, on ne sait pas vraiment pourquoi. Elle met ça sur le compte d'une intoxication alimentaire, mais elle n'arrive plus à s'hydrater, elle n'arrive plus à s'alimenter, elle vomit beaucoup. Début juillet, on l'emmène à l'hôpital. Au début, elle n'est pas vraiment prise au sérieux. Une femme de la cinquantaine qui ne mange pas bien et qui n'a pas beaucoup de ressources, et qu'elle est ménopausée et qu'elle ne fait pas attention à ce qu'elle mange, et si elle mangerait un petit peu mieux, bien tout ira bien. Pas du tout à ce moment-là, ma mère est en train d'agoniser, hein. Elle va vraiment très très mal.
Et le lendemain, on va la voir, et là, elle a déjà changé de chambre, on n'est plus dans le même couloir. Je rentre dans la chambre, j'ai un choc. Elle est sondée de partout, elle a des poches partout. Mais ça reste ma maman qui est toujours « Est-ce que vous allez bien les loulous ?» Est-ce que... Et je me dis « Ouais, mais là, il y a un problème. Enfin, » Et voilà, quelques heures après, le médecin veut nous parler et nous annonce que notre maman a un cancer et que c'est en phase terminale. Ça s'est fait assez bizarrement pour une annonce. Notre maman est dans son lit et à côté, on voit la psychologue du service. Et en fait, au moment où elle nous l'annonce, on ne comprend pas. Enfin, on se regarde tous un peu ébahis. Notre maman, bon, je vois les yeux de la peur et ça me fait beaucoup de mal. Et en fait, le seul mot qu'elle nous dit, notre maman, c'est « Est-ce que ça va vous ?» On a dit « Oui, et toi ?» Ensuite, on est sorti de la chambre, on a laissé notre maman un tout petit peu toute seule parce que là, elle était dans une phase où, voilà, je pense qu'elle avait besoin de se sentir seule. Donc là, j'ai un peu le ciel qui me tombe sur la tête. Je pleure même pas, en fait, j'ai pas le temps de pleurer. Je me dis surtout, mais qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce qu'on fait de Yona et qu'est-ce qu'on fait de notre vie, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
À ce moment-là aussi, il y a plein de choses qui se mêlent en moi, parce qu'en fait, je me demande si ma mère nous a pas caché des choses sur sa santé. Et c'est quelque chose qu'elle me dit aussi à la fin de sa vie. Je lui dis, mais tu n'as jamais eu mal au ventre? Est-ce que tu n'as jamais eu certains symptômes? Et elle me dit, de toute façon, je devais aller travailler. Et là, si vous voulez, en fait, le décès de ma mère a réactivé en moi aussi, je dirais, une certaine colère, parce qu'en fait, c'est cette vie-là qui l'a tuée. Je pense en tout cas que son histoire n'y est pas pour rien. Et surtout, voilà, à ce moment-là, on se dit, mais en fait, j'ai fait tout ça pour rien, en fait. J'ai laissé toute mon enfance pour ça, j'ai laissé toute mon adolescence, je me suis oublié. Et voilà, j'étais sur un modèle très « quand on veut, on peut ». Et pourtant, j'essaye de tout faire, et à ce moment-là, je me dis, mais je suis vaincu, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je travaille depuis que j'ai 12 ans, là, je rentre en bac plus 9. Je suis à deux doigts d'enfin sortir de cette vie. Je vais devenir un intellectuel, avoir une carrière académique. Et là, c'est la douche froide. Et je pense à mes deux sœurs. Je me dis, mais ces pauvres petites filles, quoi.
Moi, j'avais 20 ans. Je rentre en licence 3 d'histoire à ce moment-là. J'habite avec mon ancien copain. Donc, je débute dans une vie adulte, tant bien que mal, parce que je travaille aussi pour essayer de m'en sortir. Mais là, l'argent ne me fait pas peur. Je me dis juste, je dois avoir la garde de Yona. Comment on fait pour qu'elle vienne avec nous? Et cette petite fille, c'est toute ma vie. On ne peut pas la laisser, c'est pas possible. Et il y a aussi le côté où je me dis, il faut que le départ de notre maman soit quelque chose de simple et de sain et qu'elle se sente bien. Donc moi, j'ai passé énormément de temps avec ma maman à essayer de trouver des jeux pour pas être stressée, pour pas avoir peur. Et à côté de ça, bah, du coup, gérer aussi Yona, parce que elle a 12 ans, donc c'est encore une petite fille qui rentre en quatrième à ce moment-là. Et émotionnellement, elle gère super bien. Elle se rend vite compte de la situation. Voilà, elle nous le dit dès le début, moi je le sens pas. Et en fait, elle est hyper courageuse. Je sais qu'il y a des fois, je pleure, Roman pleure avec moi. Et elle est là et elle nous dit... Non mais ça va le faire, hein. Maman, on se doute qu'elle va pas rester longtemps, mais on va faire le maximum et puis on sera toujours soudés. Et là je me dis, ok, donc c'est notre petite sœur de 12 ans qui nous motive, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est une source de motivation, et c'est comme ça qu'on a réussi à s'en sortir, je pense. Et le 20 août, notre maman décède, donc à ce moment-là, bah, tout s'accélère, on doit préparer les funérailles, on doit préparer la demande de tutelle de Yona. À ce moment-là, on est confié à une assistante sociale assez jeune du service hospitalier, qui n'a pas forcément su nous diriger vers les bonnes portes, parce qu'on a monté un dossier de délégation de l'autorité parentale, sauf qu'en fait, on délègue une autorité parentale quand quelqu'un est encore en vie. Donc, on le donne le jour du décès, donc c'est obsolète, hein, ça ne fonctionne pas. Donc, on reprend toutes les démarches, on est aidé par une notaire, gracieusement, qui fait beaucoup pour nous. Et du coup, fin septembre, on ouvre une déposition à Dijon. Et pendant plusieurs mois, on doit un peu prouver qu'on est capable. Donc, trouver un nouveau logement avec une chambre pour Yona, c'est l'inscrire dans un collège, c'est montrer qu'on peut subvenir à ses besoins, qu'elle ne manque de rien, que ce soit psychologiquement, culturellement, matériellement. S'occuper d'un enfant, c'est devenir parent rapidement, en fait.
À ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Me lever encore plus tôt pour travailler plus? Je peux pas, je me lève déjà tous les jours très tôt, me coucher plus tard, je ne peux pas non plus. Pour la première fois de ma vie, je me dis, c'est la fin, quoi. Et très pragmatiquement, la première question qui m'anime, c'est combien coûte un enfant par mois? Je me dis, bah, écoute, Roman, il te reste une année de thèse, tu arrêtes ta thèse et tu vas travailler. Et là, ma compagne et mes sœurs me disent, mais... il va falloir demander de l'aide, en fait. Et là, moi, je me dis, mais demander de l'aide à qui? Et ma compagne a l'idée de dire, bah, écoute, on ne trouve pas d'aide au niveau institutionnel, au niveau étatique, eh bien, demandons de l'aide privée. Et c'est là que naît la cagnotte en ligne. Et donc, cette cagnotte, ma compagne m'a dit, bah, écoute, on peut faire une cagnotte, mais il va falloir expliquer aux gens pourquoi. Et moi, j'avais caché et je cache encore cette histoire jusqu'à présent, parce que pour moi, c'est honteux. C'est-à-dire que pour moi, expliquer que ma mère a mangé de la nourriture pour chien pour nous donner de la nourriture de meilleure qualité, que ma mère ne s'est jamais acheté un vêtement en 25 ans, pour moi, c'était une honte absolue, surtout que voilà, ma mère m'a toujours appris à faire semblant, à bien présenter. Et là, je me dis, de toute façon, il faut sauver mes sœurs, donc je vais tout expliquer.
Il y a eu énormément d'aides de toute la France, il y a même eu d'autres pays, Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne, enfin, ça a vraiment fait le tour de la France et pas que. Je me rappelle qu'au début, on avait eu, je crois, 2 500 euros dessus, on était trop contents, on s'est dit, bon, trop chouette, notre maman va avoir enfin un beau cercueil, enfin, des choses assez bêtes. Et ensuite, grâce à un article du Pays Lyonnais, 2 jours après, on a regardé la cagnotte, on était à 50 000, donc on est passé de 3 000 à 50 000, et on s'est couché, et le lendemain matin, on était à 70 000. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible, enfin, chaque heure, ça augmentait tout le temps. On n'en revenait pas, on était choqués, et on a pris ça comme une chance incroyable d'être aidés par les gens. Enfin, ça nous a enlevé une angoisse énorme. Si on n'avait rien de côté, comment on ferait s'il y a un imprévu, en fait? On ne ferait pas, on serait en négatif, on serait... Je pense que j'aurais dû arrêter mes études. Non, c'est même pas, je pense, c'est sûr.
J'ai été très ému par cette solidarité. Il y a l'aspect financier qui, effectivement, était important, parce que, voilà, pour s'en sortir et enterrer ma maman, il fallait de l'argent. Mais ça a été surtout le soutien. Voilà, on a reçu des messages, mais... Notre boîte mail était inondée de messages. J'ai reçu des appels sur mon portable privé pour me dire, mais écoutez... Je ne peux pas vous aider financièrement, mais continuez, ce n'est pas un combat en vain en tout cas. Je me souviens des gens qui nous ont envoyé un message pour nous dire, bah, écoutez, on n'a pas d'argent, on ne peut pas vous aider, je peux vous envoyer des tickets restaurants ou des chèques vacances. Je me suis dit, mais quelle humanité quoi. Le combat pour la gare de Yona, c'était aussi le combat essentiel, mais qui est un combat qui est lié au combat financier, parce qu'en fait... Quand vous voulez la garde d'un enfant, il vous faut déjà quelqu'un qui peut vous aider dans les démarches. Donc ça, c'est des services qui sont rémunérés, évidemment. Et nous, on est venu avec un fichier Excel, avec toutes les dépenses, pour montrer que c'était durable, que c'était stable, avec déjà les inscriptions au collège pour Yona à partir de septembre. Enfin, on est venu avec notre dossier complet pour récupérer Yona. Donc on était dans les clous.
J'ai tenu la garde de Yona le 25 mars 2022, donc il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on a un peu fait les choses à l'envers, je dirais. On a tout mis en place, nous, dès le début, la cagnotte, le nouvel appartement, la chambre, etc. Et en fait, quand on est arrivé devant le juge, elle a dit « Ah, mais vous avez déjà tout fait en très peu de temps. » Et elle a dit « Mais moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est incroyable, elle nous a félicités, elle est adorable comme juge. » Évidemment, j'ai encore des contacts parce que je dois rendre des feuilles, montrer que Yona ne manque de rien, etc. Et la juge nous a félicités, mais elle nous a quand même dit que si on n'avait pas fait de cagnotte, elle n'en aurait peut-être pas eu la garde de Yona, parce qu'en fait, on aurait manqué d'argent et surtout d'un parachute si on ne gagne rien. Parce que moi, je suis boursière et je gagne quelques aides de la CAF, et heureusement que je travaille. Si je ne faisais pas tout ça, elle aurait estimé qu'on ne gagnait pas assez. Et que si on avait un imprévu encore une fois, ce serait pas possible. Le lien avec Yona, c'est un lien qui est particulier en fait. En un an, il s'est modifié. Je me rappelle d'une petite fille que j'ai récupérée fin août, avec qui on en était un lien de sœur encore. On n'avait pas forcément trop d'autorité parentale. Je savais pas trop où me mettre. Et je prends quoi, 2-3 mois de septembre à novembre 2021 à prendre mes marques avec elle, à prendre de l'autorité aussi, à lui montrer que je suis sa sœur, mais que ça va être autre chose maintenant. Donc il faut poser des limites, poser des bases, qu'elle comprenne que maintenant c'est moi qu'elle doit écouter. Et puis après, ça se fait assez naturellement. Et maintenant, le lien est tout autre. J'essaye de garder ce lien un peu de complicité de sœur, mais c'est compliqué. Je suis pas sa maman, mais je suis plus vraiment sa sœur. Alors elle me dit plus vraiment que je suis sa sœur. Elle m'appelle souvent maman Morgane, parce que voilà, être tuteur d'un enfant, c'est pas juste prendre des décisions sur un papier, c'est pas juste l'habiller, c'est pas juste lui donner les besoins vitaux. c'est donner de l'amour à une petite fille qui a perdu aussi sa maman, hein, parce qu'on vit la même chose en fait, sauf que moi je suis plus grande, alors ce sera jamais le même amour évidemment que notre maman, mais j'essaye de faire au mieux pour que ça y ressemble.
Ce qui est assez amusant une journée à Dijon quand on se retrouve tous les trois, c'est que c'est une journée exactement comme avant en fait. C'était un peu aussi l'enjeu, je pense, avec Yona. Morgane n'est pas la maman de Yona, donc il y a des aspects sur lesquels elle a besoin d'être maternante, mais il y a des aspects aussi où elles ont besoin d'être sœurs, où moi, parfois, j'ai besoin aussi d'être que leur frère. Et c'est ça qui marche bien, je pense, les week-ends, c'est qu'on arrive à garder un peu cette candeur de frère et sœur avec parfois des activités un peu bêtes, quoi, j'ai envie de dire, tout en gardant le côté sérieux du « parfois, il faut faire de l'administratif ».
On va être tous les trois, frères et sœurs, et c'est ce qu'il disait, on fait des choses un peu débiles. On va tout le temps au bar à jeux, c'est notre endroit favori. Et là, par exemple, quand on est au bar à jeux, on va se chamailler, parce qu'il y en a un qui ne comprend pas. On n'est plus vraiment dans l'aspect éducatif. Et après, c'est ce qu'il disait, on fait des choses un peu individuelles. Alors des fois, on va travailler chacun de notre côté. Des fois, il va faire un truc juste avec Yona, il va l'emmener marcher. Enfin, non, c'est chouette. Et moi, j'attends impatiemment chaque mois le retour de mon frère. Et je me dis qu'en un an, on a quand même parcouru pas mal de choses. À la fois, c'était long et c'était très court. Je pense qu'on a beaucoup évolué et qu'on a réussi, donc le chemin est loin d'être fini, hein, mais qu'on a réussi à être un peu plus apaisé, à se dire que oui, il y avait une vie après le décès de nos parents, que oui, on pouvait, je pense, essayer d'être heureux et heureuse sans notre maman. Alors j'ai ressenti un sentiment d'injustice au tout début, pendant plusieurs mois, j'étais très énervée. Et puis ça s'est apaisé et je me suis dit que de toute façon, on n'avait pas le choix et qu'il y avait une chose qui était primordiale pour moi, c'était surtout de donner la vie que ma sœur mérite. Et on y contribue pas mal avec Romane, on y travaille. Et en fait, ce qui me motive souvent quand je me sens un peu dépassée par les événements, c'est de me dire, on a une petite fille de 14 ans et moi, à 14 ans, Romane aurait fait exactement la même chose pour moi. Et Yona, elle va avoir une vie géniale, je l'espère, et je veux qu'elle ait une vie aussi plus ou moins normale d'une adolescente de 14 ans.
C'était La Fratrie Malo, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Thomas Jost. Merci à Romane, Morgane et à Virginie Guiraudier. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris. Et notre stagiaire, c'est Flavie Champion.
Toute la volonté d'un tratto se ne va di fronte all'ovvietà. Questo è immensità e lavorare per 10 ore, compiere sempre scelte di cuore, chiedere scusa per un errore, anche questa è immensità, tutta la realtà è immensità. Come il sogno poi si dissolverà. Da domani inizierà una nuova immensità. Da domani. Da domani.